France Musique.
You got it. Got the white. Got the white. Got the white. Got the white.
Zeitmöglich. Zeitmöglich. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät. Kommen nicht zu spät.
À pleine voix, bonjour depuis le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, où nous allons parler vieillissir et trésors de la collection Charles Cros autour du thème de la voix médiatisée, celle donc que l'on captait, que l'on enregistrait, que l'on gravait dans les tout premiers temps de l'histoire du disque. Et pour commencer, je vous emmène en 1904, soit 2 ans après la création de l'opéra de Claude Debussy, Péléas et Mélisande, la créatrice du rôle de Mélisande, Mary Garden, accompagnée par Alfred Cortot, gravait sur cire l'air Mes longs cheveux. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir quasiment tout le département de l'audiovisuel réuni avec Pascal Corderex, tout d'abord, qui est chef du service des documents sonores, Luc Verrier, qui est responsable des travaux techniques et de la restauration des phonogrammes. Donc, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est Luc qui a réalisé le travail de restauration. Xavier Loyant, qui est responsable de la section conservation et de la collection Charles Cros. Et puis, Lionel Michaud, qui est responsable de la section des documents sonores anciens. Et enfin, beau passage de relais, Bruno Sebald, qui a dirigé cette section des documents sonores durant de très nombreuses années, puisqu'il vient juste de prendre sa retraite et il était conservateur depuis 1998. Eh bien, Bruno vient nous apporter évidemment toute cette immense expertise qu'il a sur ce fonds de documents. Et justement, j'avais envie de vous poser une première question sur d'abord l'âge de cette interprète. Elle est toute jeune dans cet enregistrement, Mary Garden.
Mary Garden a 27 ans. Elle est le prototype, malheureusement, de la soprano, c'est-à-dire que nous sommes dans le mode d'enregistrement acoustique et les sons aigus passent mal. Et on n'a pas l'impression qu'elle a 27 ans. Mais elle n'est pas du tout la seule et malheureusement, c'est un phénomène qu'on va retrouver régulièrement pour toute cette période de l'enregistrement acoustique qui va jusqu'en 1925.
Ces premiers pas de l'enregistrement acoustique remontent à quelles années ? Pour des enregistrements de musique ?
Il y a eu des premiers essais vers 1889, puisque la Columbia aurait enregistré Brahms. Il existe un témoignage de cet enregistrement, mais c'est dans un tel flou qu'on peut tout imaginer. Les tout premiers enregistrements musicaux, vraiment où se constitue un corpus. On peut le remonter à 1894 avec l'ouverture d'une des toutes premières maisons d'édition phonographique, qui est la Berliner's Gramophone. Il se trouve aux États-Unis et Berliner, l'inventeur du disque plat, va s'entourer de musiciens. Et il va constituer un véritable répertoire qui va se pérenniser donc, tout au long de ces 25 premières années et s'épanouir par la suite.
En fait, on voit bien que travailler sur l'histoire de l'enregistrement et du sonore nous amène à penser vraiment tous les grands mouvements socio-économiques de ce tournant de siècle, hein, fin 19e siècle. Et justement, je pense qu'il est important aussi de, entre guillemets, renationaliser cette histoire de l'enregistrement, parce que on va maintenant parler avec Pascal Corderex des archives de la parole, qui sont un fond absolument unique, mais c'est quand même très français, ce désir de passer d'abord par la question de la voix parlée et la restitution de la voix parlée, alors qu'aux États-Unis ou en Allemagne, comme vous disiez, on est déjà dans un processus d'enregistrement de la musique, en quelque sorte, hein.
Oui, oui, c'est très français, effectivement, puisque Ferdinand Bruno, qui est linguiste, qui est le créateur des archives de la parole, qui le fonde en 1911, a un propos de valorisation de la langue, et particulièrement de la langue française, c'est une affirmation très forte, et de pouvoir restituer ces manifestations de la langue parlée par le phonographe, plutôt que par l'écrit, qui, à ses yeux, est toujours une trahison de la langue parlée. Donc, contrairement à d'autres pays, effectivement, d'autres traditions, on est là dans une perception de la langue et du phonographe au service de la langue, aussi bien dans sa transmission, sa conservation, sa patrimonialisation, que dans son étude, etc. Une caractéristique de Ferdinand Bruno, deux caractéristiques plutôt, c'est qu'il fonde des archives de la parole à la Sorbonne. Donc là, on est dans le cadre scientifique, dans le cadre universitaire. Mais ces archives de la parole ne peuvent voir le jour que grâce au soutien d'une firme industrielle, qui en l'occurrence la firme Pathé, et plus précisément Émile Pathé. Le grand génie finalement de Ferdinand Bruno, c'est de s'être appuyé sur un industriel, une industrie, pour créer ces archives de la parole dans un cadre scientifique.
Quel est le document qu'on va entendre alors à présent ?
Alors c'est précisément un extrait, c'est le début du discours d'inauguration de Ferdinand Bruno, où il restitue précisément tout l'apport de l'enregistrement sonore par rapport à l'écrit.
Monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, messieurs, la création d'appareils qui enregistrent et reproduisent la voix humaine complète une série d'inventions qui a commencé le jour où l'homme a imaginé de dessiner un premier symbole pour représenter sa pensée. Après l'écriture, après l'imprimerie, il restait encore un progrès essentiel à faire, car ni l'une ni l'autre ne fixe ni ne transmette la parole dans son intégrité absolue. En effet, si cette parole, par fonction, est une image de la pensée, par essence et par nature, elle est un assemblage de sons et de bruits. Or, ces sons et ces bruits ont un rôle tel. Ils contribuent tant à donner aux langues leur caractère. Ils servent si bien à charmer, à persuader, à instruire, que l'effet de la scène la plus pathétique, du discours le plus éloquent, de la leçon la plus nette, est diminué, parfois détruit, quand on n'a pas pu les écouter.
On voit déjà toute le style de l'époque oratoire, hein, qui est quand même assez daté, et le fond lui-même assez grandiloquent, parce qu'ils ont bien conscience, hein, c'est ça qui nous surprend à chaque fois, c'est la grande conscience qu'ont ces acteurs d'écrire l'histoire et d'avoir une pensée pour le futur. On le verra tout à l'heure justement autour de tous ces instruments, magnifiques documents et instruments et outils de la collection Charles Cros. Xavier Loyant, comment est-elle née cette collection ?
La collection Charles Cros, elle existe finalement, sans l'appeler comme ça, depuis qu'il existe les archives de la parole, puisque par définition, on a eu besoin en fait d'appareils, d'enregistrement puis de lecture pour faire toutes ces collectes d'archives et les réécouter, les diffuser, les transcrire ensuite. Et rapidement, en fait, on a pris l'habitude de conserver les appareils utilisés à l'époque, et certains d'entre eux sont parvenus en fait jusqu'à nous, et un petit échantillon donc vous est présenté ce soir.
Alors quel est cet appareil qu'on voit ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire ?
Nos spectateurs les plus perspicaces reconnaissent peut-être la graveuse qui a servi au discours d'enregistrement en fait de Ferdinand Bruno à l'inauguration des archives de la parole en 1911. Elle est constituée de trois éléments, en fait, cette grande table que vous voyez au premier plan, et puis à l'arrière-plan, deux éléments qui, superposés, forment une tour de 3 mètres de hauteur environ, au sommet de laquelle on remontait, grâce à une manivelle, des poids en fonte, qu'on laissait ensuite redescendre, ce qui entraînait la rotation du cylindre, qui était gravé, par un système d'engrenage et transmission de l'énergie. Cet appareil, on le retrouve dans la campagne des Ardennes, réalisée en 1912. Et effectivement, à l'inverse de la grande graveuse qu'on vient de voir, c'est un appareil plus petit, transportable, assez facilement manipulable. Donc on comprend que Ferdinand Bruno l'ait utilisé dès l'année suivant la création des Archives de la Parole pour réaliser les premières campagnes de collecte d'archives orales.
Comment s'était passée cette collecte, Pascal Corderex, dans les Ardennes ?
C'est une collecte assez pionnière dans la mesure où Ferdinand Bruno, qu'on voit ici accompagné de Charles Bruno, qui était son élève, et de Madame Bruno, vont aller dans les Ardennes en voiture, en fait, en automobile. Et il faut bien se représenter ce mandarin qui était Ferdinand à l'époque. Ferdinand Bruno, c'est l'auteur d'une énorme histoire de la langue française, donc c'est quelqu'un de très reconnu déjà dans l'enseignement. Et ce mandarin, donc, qui va faire différentes boutiques pour louer une automobile. On a les archives de ses démarches, qui va louer une automobile pour partir un petit peu battre la campagne au fin fond des Ardennes franco-belges, dans des tout petits villages de 50-60 habitants, et qui va porter la science un petit peu, il y a un peu ce registre-là aussi, de porter la science auprès de ces populations et de les enregistrer. Pour certains, ils n'avaient jamais vu de phonographe, n'avaient jamais vu cette technique.
On va peut-être écouter cet enregistrement. De quoi s'agit-il alors ? De quelle musique ?
Alors là, je pense que Pathé va non seulement fournir du matériel, des techniciens aux Archives de la Parole, mais il va également donner de larges pans de son catalogue commercial, dont des références enregistrées, alors à l'époque en 1910, enregistrées dans le Caucase par la filiale russe de Pathé. Et l'enregistrement que nous allons écouter maintenant était enregistré autour de 1910, en ingouchie, donc il s'agit d'un chœur ingouche, qui a été enregistré plus précisément par un opérateur qui s'appelait Theobald Noble, qui était anglais, et qui avait été envoyé par Pathé au fin fond du Caucase, puis en Chine, puis encore plus loin, enregistré pour la firme Pathé.
Donc c'est vraiment ce désir de capter les sons du monde. Il y avait à ce moment-là déjà, Luc Verrier, plusieurs techniques d'enregistrement.
Donc il y a deux techniques, hein, l'enregistrement sur cylindre et puis l'enregistrement sur disque plat. C'est une cire d'une épaisseur d'à peu près 3 cm sur lequel en fait, le diaphragme, avec un léger stylet, en tout cas, va pouvoir venir graver un fin sillon et graver l'information. La gravure sur cylindre, ça va être une gravure en profondeur. Hein, on va appeler ça une gravure verticale. Et puis, il y a une autre technique qui est la gravure latérale, inventée par Berliner. Et là, en fait, ça va être un déplacement du burin graveur de façon latérale, mais à profondeur fixe. Et en fait, Berliner a inventé et a conçu le système de galvanoplastie qui va permettre de reproduire en masse, en tout cas, et de façon relativement aisée, en tout cas, des disques. Donc, il va pouvoir produire des matrices et on va pouvoir donc presser à grande échelle un grand nombre de disques.
On industrialise un peu le procédé.
Exactement. Il n'y a pas encore de lieu spécifique d'enregistrement. En revanche, quelques années plus tard, après son installation ou pendant son installation à Chatou, Pathé va construire donc son fameux tonneau, je crois qu'il y en a même eu deux, qui est une pièce cylindrique recouverte de bois et qui va permettre en fait de normalement favoriser la captation des ondes sonores par toujours ce fameux cornet qui va enregistrer là sur un gros cylindre, un cylindre à paradis qui va lui servir ensuite à la reproduction sur des disques plats puis les matrices.
Là on est d'accord que c'est un orchestre d'harmonie.
C'est un orchestre d'harmonie qui est disposé d'une certaine manière pour arriver à focaliser un maximum d'énergie vers le pavillon, parce que le but du jeu là-dedans c'est d'arriver j'allais dire, à faire un maximum de bruit. Alors le problème, c'est qu'il fallait pas trop en faire, mais il fallait en faire suffisamment pour que justement
pour que le
tout le dispositif
rentre voilà. dans le cornet.
Il ouais. faut que le diaphragme qui va permettre l'enregistrement vibre suffisamment pour pouvoir bien graver le sillon.
L'enregistrement qu'on va écouter à présent, ça n'est pas n'importe quel pianiste, puisque c'est Alfred Cortot qui accompagne Félia Lidvine, qui a 47 ans à peu près.
Oh oui, elle est née en 1860, donc le premier enregistrement que nous allons entendre date de 1903, donc elle a 43 ans.
Voilà, donc l'air de Chimène, Pleurer mes yeux, extrait du Cid de Jules Massenet. Félia Lidvine, donc, en 1903, accompagnée au piano. Cet enregistrement, quand même, fait un petit peu mentir les représentations qu'on a de l'enregistrement acoustique qui aurait desservi les voix, les voix féminines, Bruno Sebald.
Elle est un contre-exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sopranos. C'est une voix qui a du corps. Donc, il y a toute une école française de chant et de diction, car non seulement il y a la qualité de la voix, mais il y a également la diction. Par rapport à Mary Garden, justement, il y a tout un art du chant qui émerge et qui est valorisé.
Oui, parce qu'on est sur les mêmes années, hein, donc Mary Garden 1904, 1903, on a l'impression de pouvoir suivre pas à pas, en fait, en écoutant tous ces enregistrements, les progrès aussi réalisés dans les techniques d'enregistrement, parce que là, l'enregistrement qu'on va écouter, l'extrait du Cid, donc le même extrait, en 1907, quatre ans plus tard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on n'a plus qu'un piano, mais on a...
On a un accompagnement d'orchestre. C'est l'époque où l'orchestre commence à accompagner les extraits lyriques.
Et c'était donc Félia Lidvine en 1907 dans l'air de Chimène, Pleurer mes yeux, extrait de l'opéra de Jules Massenet, le Cid. Ici donc accompagnée par un orchestre symphonique et non plus seulement un orchestre d'harmonie. Comment alors restituer le son des cordes de l'orchestre? Xavier Loyant, il existait je crois des instruments pour renforcer ces cordes et notamment un curieux violon appelé violon Stroh, dont un exemplaire se trouve dans la collection Charles Cros de la BNF.
Alors, on a vu que le son de la trompette passe très bien l'enregistrement et celui du violon très peu ou très mal. Qu'à cela ne tienne, on remplace la caisse de résonance du violon par une embouchure de trompette. Mmh. Ça donne ces instruments assez étonnants aujourd'hui, mais qui pourtant sont encore joués, notamment en Roumanie. Alors, je raccourcis un petit peu l'histoire, puisque le brevet que dépose Stroh, donc cet Autrichien, en 1899, ne fait pas mention de cette utilisation pour l'enregistrement musical. Donc, c'est un instrument qui va être joué beaucoup en Roumanie pour la musique traditionnelle, qui est toujours joué, et pour lesquels les compositeurs contemporains composent toujours, notamment Peter Eötvös, qui a composé un long solo de violon de Stroh dans son opéra Le Balcon, qui date de 2002, adapté donc de la pièce de Genet. Voilà, donc comment ça fonctionne ? Ben, comme je vous le disais, on a une embouchure finalement semblable à celle d'une trompette ou d'un instrument à cuivre, en tout cas.
Donc pour les auditeurs, se représente bien, effectivement, il n'y a qu'une partie du violon, il n'y a que le manche,
voilà.
Avec les cordes qui sont un peu cassées. Le manche est un peu plus long qu'un manche de violon normal, et il y a deux pavillons. Enfin, deux cordes.
Effectivement, un grand pavillon qu'on va pouvoir diriger justement vers le pavillon d'enregistrement, et puis un plus petit pavillon, qui est à 90 degrés environ, qui va permettre de diriger un peu de son dans l'oreille, d'avoir le retour de ce qu'on est en train de jouer pour savoir ce qu'on joue et si on joue ce qu'il faut. C'est un son un peu plus métallique, mais on reconnaît quand même lorsqu'on écoute le son d'un violon malgré tout.
En tout cas, les voix, elles, on les reconnaît. On les reconnaît, même si effectivement les femmes peuvent être desservies, qu'au début il pouvait y avoir quelques tensions entre deux chanteurs. On va écouter maintenant Lionel Michaud, un enregistrement, mais là aussi on va mesurer que les voix peuvent se démarquer en fait assez nettement.
Oui, tout à fait. Donc c'est un duo et un duo de voix masculines, puisqu'on a un ténor léger en la personne d'Edmond Clément et on a une basse en la personne de Marcel Journet. Alors ils ont tous les deux donc une quarantaine d'années, ils sont en pleine possession de leurs moyens vocaux et donc ils interprètent le duo de l'acte 1 des Pêcheurs de Perles de Bizet. Et je laisse aux auditeurs le soin d'imaginer l'empoignade des deux artistes au moment de l'enregistrement, qui ne se remarque absolument pas dans ce que nous allons entendre.
Célèbre duo des Pêcheurs de Perles entre Zurga et Nadir, avec donc ces deux artistes qui sont maintenant très oubliés, Edmond Clément et Marcel Journet, sauf par tous les connaisseurs que vous êtes de ces vieux enregistrements. Ce qui reste assez fascinant aussi, c'est la qualité musicale déjà, d'interprétation, et puis ces plans sonores qui déjà s'organisent. On ne sait pas trop en fait si l'un est derrière, à côté. Comment ils se sont placés, Bruno Sebald ?
Bon, ce sont deux très grandes voix. L'un est plutôt un mélodiste, le ténor. L'autre a une très belle carrière à la scène du Metropolitan à la Scala. Oui, effectivement, on ne sait pas comment ils sont placés.
Lionel Michaud.
Ce disque que nous allons entendre, cet extrait de Manon, qui est chanté par Lucette Korsoff, une soprano française issue d'une famille de musiciens russes, donc qui est moins connue aujourd'hui, mais qui a néanmoins eu une très très belle carrière, puisqu'elle a chanté dans un très grand nombre de pays. Elle a chanté devant le Tsar à Saint-Pétersbourg, elle a chanté en France, en Grande-Bretagne, en Égypte. Et elle a aussi une carrière discographique assez importante, puisqu'elle a beaucoup beaucoup enregistré entre 1905 et le début de la Première Guerre mondiale. Elle a un tout petit peu enregistré ensuite, mais très peu. Et donc ce que nous allons entendre maintenant, donc cet extrait de Manon, est issu d'une séance d'enregistrement qu'elle a faite chez Gramophone en 1908.
Lucette Korsoff, en 1908, accompagnée par un orchestre dans ce célèbre ici Mère de Manon, je suis encore tout étourdie. Et on va avoir la chance de pouvoir comparer cet enregistrement donc encore acoustique avec effectivement quelque chose quand même un peu encore resserré dans le spectre sonore. Et là, tout va s'élargir puisqu'on a la chance d'inviter Faustine de Monès, qui est une jeune soprano lyrique léger et qui nous fait le plaisir de venir de New York où elle étudie à l'université New School de New York, qui est une des grandes universités privées américaines, à Maness, donc qui est dépendante de cette université. Et Faustine s'est produite récemment au Carnegie Hall de New York dans un programme Poulenc. Elle aime beaucoup la mélodie française et on va justement pouvoir l'écouter tout de suite. Donc dans cette ère de Manon, accompagnée par Frédéric Rubet.
Curieuse, les arbres frissonnent au vent, et j'oubliais tout.
Et Frédéric Rubet, donc dans cette ère de Manon où on entend de la 3D, parce que c'est de ça qu'il s'agit, alors que l'enregistrement reste encore en 2D aujourd'hui. On n'a pas encore inventé la 3D, si, mais ça, ce sera encore une autre histoire avec l'écoute binaurale. On va maintenant, justement, aller tranquillement, mais sûrement, dans les années 30, au moment où il s'opère cette révolution de l'enregistrement électrique avec la fée électricité, dès 1925.
Alors justement, petit rappel, on voit bien l'étendue de la différence. Hein. J'allais dire que l'acoustique, on est en 1D, et puis peut-être la 2D, et puis on verra bien la 3D. Mais en tout cas, il y a un monde en tout cas, entre une prestation acoustique et puis l'enregistrement. Heureusement, les progrès des techniques qui nous permettent d'arriver à une ère dans les années 20, 30, généralement la date donnée c'est 1925, où grâce à la lampe à triode, en tout cas l'amplification devient possible. Et donc là, enfin, on va pouvoir avoir cet outil magique qui est le microphone, qui va nous permettre en fait de capter grâce à un microphone, puis petit à petit par plusieurs outils de prise de son, on va pouvoir ensuite même mixer, filtrer, et puis on va surtout pouvoir aussi canaliser toute cette énergie pour pouvoir graver correctement un disque. Parce que c'est vrai que le graveur, pour l'instant, il était toujours mécanique, et là, il va passer électrique. Donc, on change de lieu aussi, on change de disposition. Les cordes, les cuivres, le piano, puis tous les autres instruments, le chef d'orchestre, ont enfin de l'espace et vont pouvoir se disposer tout autour du micro. Et là, on a la possibilité d'avoir en tout cas beaucoup plus d'espace. On va pouvoir même jusqu'à entendre l'acoustique, la salle. Tous ces dispositifs vont nous permettre petit à petit justement d'accroître la gamme de fréquences possibles au niveau de la captation et de l'enregistrement. On passe de un petit peu plus de 4 octaves en 1925 à 6 octaves, voire 7 octaves en 29, et puis ça continuera. Donc la vitesse à cette époque-là devient standard. On passe à 78 tours par minute. Le mode de gravure, il devient aussi standard. Il n'y a plus de gravure verticale. On passe à la gravure latérale. Cela va nous permettre d'avoir un élargissement du spectre. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, en plus, ce dispositif va pouvoir être, bien sûr, branché sur un outil qui fait concurrence, d'ailleurs, à l'industrie phonographique, qui est la radio.
On va écouter tout de suite, justement, pour se rendre compte de cette différence majeure entre deux enregistrements de la même œuvre. Il s'agit d'Ariane et Barbe Bleue. C'est Suzanne Balguéry qui chante L'air des bijoux, Homme et clair diamant. On va l'écouter en 1924, donc à la fin de l'acoustique, et puis en 1930, au tout début donc de l'électrique. Donc on entend ici un peu quand même quelques effets de distorsion hein, de la voix, et on va se rendre compte effectivement que cette voix s'installe pleinement dans tout son spectre dans un enregistrement ultérieur 6 ans plus tard, en 1930. Donc un très bel enregistrement, hein. Là effectivement, on mesure pas en fait qu'on est presque 80 ans en amont de ces enregistrements. On va écouter à présent le support lui-même, parce qu'on a eu l'occasion d'entendre toutes ces galettes restaurées par Luc Verrier. Mais ici, il y a un meuble merveilleux et on ne sait pas ce qu'il contient. Et Xavier Loyant va nous en parler.
Alors, on va essayer de revivre effectivement donc une séance d'écoute chez soi dans les années 30 sur un phonographe, en fait, de 1934, de marque Columbia, puisque lorsqu'on avait un petit peu de moyens, qu'on voulait répondre à des codes esthétiques, domestiques, on cherchait à dissimuler les mécanismes, les appareils, dans des meubles qui n'en avaient pas l'air. Donc, ce meuble qui ressemble à un petit bahut renferme en fait un phonographe, et il est entièrement mécanique et entièrement acoustique. Mécanique puisque la rotation du plateau et du disque va être entraînée uniquement par le dévidement d'un ressort que je vais remonter en tournant cette manivelle, et acoustique puisque l'amplification du son n'est produite que par un système totalement acoustique fondé sur la circulation de l'air en fait, et amplifié ici par le pavillon qui est caché dans le corps du meuble derrière ses portes.
Alors qu'est-ce qu'on va écouter dans cet enregistrement ?
On va écouter le fiacre chanté par Yvette Guilbert en 1934. Alors si j'ouvre le capot, enfin on aura des aigus comme sur le piano à queue qui se trouve juste là. Et puis donc pour monter le son, on ouvrira les portes. Donc je propose qu'on commence en fermant complètement l'appareil, puis j'ouvrirai petit à petit pour vous rendiez compte justement de ce son qui envahit complètement l'espace. Alors on ferme tout.
Ma femme dont j'entends la voix, Lucia Costa, ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, quelqu'un il y a comme ça, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. Du fiacre une dame sort et dit, quelqu'un il y a comme ça, du fiacre une dame sort et dit, oh chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, quelqu'un il y a comme ça, y'a plus besoin de nous cacher, oh donne ton sang sous à se cocher.
Le fiacre par Yvette Guilbert, accompagné ici par Irène Aitoff, c'était en 1933, un disque écouté depuis un splendide phonographe issu de la collection Charles Cros de la Bibliothèque nationale de France et que vous pourrez voir et admirer sur le site d'À pleine voix. Retour à la musique live avec Faustine Demonès et Frédéric Rubet qui interprètent à présent C'est l'extase, extrait des Ariettes oubliées de Claude Debussy. Christine Demonès et Frédéric Rubet dans C'est l'extase, extrait des Ariettes oubliées de Claude Debussy. Et nous allons justement pouvoir à présent se représenter comme une espèce de grande fresque sonore, une grande traversée dans l'histoire de l'enregistrement à travers une œuvre, un extrait du ballet de Coppelia dont Lionel Michaud va nous parler un instant avant que Luc nous décrive les enregistrements qu'on va écouter pour cette fin de séance d'À pleine voix.
On va écouter une série d'extraits de Coppelia qui a été créée en 1870 à Paris et qui a connu donc un énorme succès très rapidement. Et ce succès, on peut notamment le constater de par le nombre d'interprétations discographiques qui ont fleuri dès les débuts de l'enregistrement. Alors, l'un des premiers enregistrements qu'on va écouter à l'instant, que nous avons dans nos collections, date de 1898 ou 1900, donc on ne connaît pas très bien les dates. Et ensuite, pendant tout le XXe siècle, l'œuvre est enregistrée et on peut de cette façon constater les progrès et les évolutions de l'enregistrement à travers les enregistrements de cette œuvre.
Ballet de Coppelia.
Donc là, on passe à un deuxième enregistrement. On est quasiment 10 ans plus tard. C'est l'orchestre Abga, enregistrement toujours acoustique, à gravure latérale. Donc là, on va s'apercevoir qu'il y a une meilleure maîtrise au niveau technique, en tout cas, et le pleurage est déjà beaucoup moins présent.
Entr'actes et valses du ballet de Coppelia, exécuté par l'orchestre Abga.
Troisième extrait, on passe à un enregistrement de 1932. Là, on fait un énorme bond en avant hein, au niveau technologique. On va avoir la possibilité d'avoir une bande de fréquences, en tout cas bien plus élargie, et un respect des timbres et un respect de la dynamique qui était, bien sûr, l'apanage de l'enregistrement électrique. Après cet enregistrement dirigé par Philippe Gaubert, on change de technologie, on passe au micro-sillon qui apparaît en 1946 par la firme Columbia. Et donc c'est un enregistrement de Pierre Monteux avec l'Orchestre Symphonique de Boston, enregistrement de 1954, toujours un enregistrement mono, mais là apparaît plein d'instruments techniques différents présents dans les studios couramment en tout cas, donc la gravure électrique ça c'est sûr, mais aussi l'enregistrement magnétique. Dernier extrait, un enregistrement de l'orchestre de la Suisse romande, dirigé par Ansermé. Donc, 1959, là, une nouveauté encore. L'enregistrement n'est plus mono, On passe à la stéréo, toujours micro-sillon.
Et nous voici parvenus au terme de cette aventure sonore et technique, technologique d'enregistrement, puisque nous n'aborderons pas la question de la stéréo ce soir. De toute façon, ça ne serait pas possible, même au niveau du temps. Et on va se quitter en 3D ou en 4D pour filer la métaphore de nouveau, grâce à Faustine de Monès et Frédéric Rubet, dans un air de Vincenzo Bellini, La Sonnambula, avec ce très bel air, Comme per me sereno.
Oh.
Come per Sereno, extrait de la Sonnambula de Vincenzo Bellini que Faustine de Monès vient d'interpréter, accompagné par Frédéric Rubet. Et nous refermons donc C'est à pleine voix, enregistré en public depuis le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, dont on remercie chaleureusement les équipes, Jean-Loup Graton, Frédéric Ramirez, William Miconet, Zaki Zouglami, Fabien Lecareux, Frédéric Ansker et Stéphane Montero. Et bien sûr, un grand merci aux équipes de Radio France, Roland Dandalex, Olivier Berotte, Tanguy Lecorneau, Benjamin Perru, Cédric Châtelut, Christine Amado et Françoise Monteil. La semaine prochaine, pas d'à pleine voix, France Musique est à la folle journée de Nantes, mais dès mardi 9 février, j'aurai le plaisir de présenter la deuxième conférence publique autour de la voix, le cycle à pleine voix, depuis le petit auditorium de la BNF. Nous serons en compagnie de Sophie Janin et de la maîtrise de Radio France pour parler du travail de la voix des enfants et des adolescents. C'est à 18h30, l'entrée est libre, renseignement sur le site de francemusique.fr. Pour les non-franciliens, bien sûr, cette émission sera sur les ondes dès samedi 13 février à 16h.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.